dans lequel Dieu l'a placé. Et ce jardin, vous le devinez encore, eh bien c'est notre âme tout simplement. Alors nous allons interroger Thérèse d'Avila, cette grande pédagogue de l'oraison, qui va nous développer cette image de l'oraison comme d'un jardinage. Celui qui commence une vie d'oraison, nous dit-elle, doit se figurer qu'il entreprend de faire, dans un sol ingrat et couvert de mauvaises herbes, un jardin tel que le Seigneur y trouvera ses délices. Alors pourquoi ce jardin est-il couvert de mauvaises herbes? Eh bien, parce que malheureusement, le paradis terrestre, nous ne le cultivons plus guère depuis le péché originel. Mais ça fait rien parce que, elle ajoute aussitôt, c'est Dieu lui-même qui va arracher les mauvaises herbes et planter les bonnes. Donc, chassons tout de suite de notre esprit l'idée d'une oraison pénible, fatigante. Non, c'est le bon Dieu qui va faire le travail. Mais ce travail préalable, elle nous dit encore que nous pouvons supposer qu'il est déjà fait quand une âme est résolue de se livrer à l'oraison. Alors, chers amis, si vous avez envie de faire oraison, c'est que le plus dur est fait, c'est que les mauvaises herbes du péché ont déjà été arrachées par le bon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, Thérèse nous dit que c'est maintenant à nous, comme de bons jardiniers, de faire en sorte, avec le secours de Dieu, avec sa grâce, que ces plantes puissent grandir et croître. Nous devons les arroser avec le plus grand soin, et alors elles porteront des fleurs dont le merveilleux parfum plaira au Seigneur. Et souvent pour son plaisir, il visitera ce jardin et y prendra ses délices au milieu de nos vertus. Alors vous le voyez, l'oraison est décidément très plaisante. En tout cas, soulignons bien que si l'homme doit cultiver ce jardin, c'est Dieu qui va en arracher les mauvaises herbes et planter les bonnes. Autrement dit, l'oraison ne nous demandera jamais de grande force, mais un peu de soin et beaucoup d'amour. Et si déjà nous sommes résolus à faire oraison, oui, les mauvaises herbes sont arrachées. Je veux dire, nous sommes de nouveau amoureux de Dieu. Déjà nous appartenons au Christ. Et la suite du texte semble nous dire qu'il serait bien dommage dès lors de se priver de ses visites dans le jardin de notre âme. Mais avant d'en arriver à ces visites, une autre image est très éclairante, employée aussi par Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, dans son gros ouvrage, Le château de l'âme, compare précisément notre âme à un château. Un château, dit-elle, avec beaucoup de demeures, parce que il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père, c'est-à-dire il y a beaucoup de vocations, et il ne faut pas envisager l'oraison d'une façon unique. Il y a autant de formes d'oraison qu'il y a de vocations. Bon, mais maintenant, comment entrer dans ce jardin ou comment entrer dans ce château? Thérèse nous dit encore, vous aurez lu en quelques livres sur l'oraison que l'on conseille à l'âme d'entrer en elle-même. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Entrer en soi-même, ou si vous préférez, se recueillir, ou si vous préférez, une expression déjà rencontrée dans notre premier entretien, se mettre en présence de Dieu. Voilà le point de départ de l'oraison. Alors, comment nous mettre en présence de Dieu? Nous allons interroger cette fois-ci Saint François de Sales. Saint François de Sales, l'auteur de l'introduction à la vie dévote. Saint François de Sales, le grand pédagogue du XVIIe siècle français, grand lecteur d'ailleurs de Thérèse d'Avila, et c'est bien dans l'enseignement qu'il donne à sa chère Philothée sur l'oraison que nous allons trouver quatre façons de se mettre en présence de Dieu. La première façon, nous dit-il, c'est tout simplement de réaliser que Dieu est là, qu'il est partout, qu'il est en tout. Et j'ajoute pour cela, qu'est-ce que vous voulez, il faut s'arrêter de faire ce que l'on fait, il faut fermer la porte, éteindre la radio, bien sûr.